Bonsoir à tous et bienvenue dans Chemin Ardennais. J'ai décidé ce soir de vous emmener en forêt. 31% du territoire de la métropole est constitué de forêts. En métropole, la forêt regroupe 190 essences, c'est 3250 en Outre-mer. Dans les Ardennes, 29% du territoire est constitué de forêts, soit 150 000 hectares, composés à 80% de feuillus avec une dominance de chênes et de hêtres. Aujourd'hui, il sera donc question de randonnée et de bains de forêt. Le Topoguide, édité par le Comité départemental de randonnée pédestre, recense 46 randonnées. Le site Sentier de France recense quant à lui 110 sentiers balisés, soit 1048 km de marche au total. Je me suis donc greffée à une opération de balisage de sentiers avec le Comité départemental de randonnée pédestre. Nous étions autour de la chapelle Saint-Roger à Élan. J'ai rendez-vous avec Fabrice, Marie-André, Marie-Lou et Jean-Marie devant la manse abbatiale d'Élan pour cette session de balisage du sentier de la chapelle Saint-Roger.
Nous allons baliser un circuit qui existe depuis déjà longtemps mais qui nécessite de nouveau un balisage parce que c'est un circuit de petite randonnée qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément habitués à suivre les cartes. Donc on va démarrer des monuments aux morts face à la manse abbatiale sur le site de l'abbaye d'Élan. Ah, c'est nous qui avons déterminé le circuit en fonction de l'intérêt touristique, des points de vue, des vieilles pierres. Donc nous, à partir de là, il faut rechercher des chemins publics de préférence, de façon à pouvoir pérenniser le circuit.
Le temps de récupérer le matériel dans le coffre de la voiture et nous sommes en route.
Nous n'avons rien à porter. On est les princesses du groupe.
Au début. Je ne sais pas si vous avez remarqué, après la galanterie s'efface au fur et à mesure qu'on avance.
Coupé.
Et puis c'est parce qu'il y a quelqu'un. Hein. C'est parce que devant témoin, voilà.
Premier problème, aucun support pour indiquer le point de départ. Le choix est finalement fait de mettre la marque sur la bordure du trottoir.
La pancarte par elle-même ou alors oui. au dos.
Au dos, mais la pancarte l'indication, on ne peut pas.
Par contre, il faudrait que ce soit un poteau comme celui-là là-bas. Avec.
Ce que je fais dans ce genre de truc, c'est sur le trottoir. Hein.
Ah oui.
Ça marche bien. Hein.
Pourquoi pas.
Ah oui, c'est pas bête.
Là.
Une peinture, ouais.
C'est comme ça. Mais...
Oui, on va faire ça.
Et la peinture, c'est de la peinture spéciale ou c'est de la peinture...
C'est un seul trait, hein.
Oui, un seul trait.
Plutôt costaud quand même.
Là, on fait comme ça.
Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis donc là, on utilise le jaune parce que là, c'est impair. Donc c'est un parcours de promenade. C'est une boucle, ça dure moins d'une journée. Et pour les GR, donc ce sont là par contre des plus grands parcours qui sont ce qu'on appelle des itinérances, de grandes randonnées. Et donc là, on utilisera le blanc et le rouge. Le code couleur, il a été décidé il y a très longtemps par la Fédération française de randonnée pédestre. On s'est fait des gabarits pour faire des choses propres parce que on essaye d'avoir des dimensions qui sont correctes. Le but, c'est que le balisage soit visible pour ceux qui le cherchent, mais qui reste discret quand même dans son environnement.
Ah ben non, ne le remue pas.
Ah
ben non, il ne faut pas le remuer, mais là, c'est tant pis maintenant. Hein. C'est moi qui vais diviser la peinture.
Oh oui.
Ah !
Qu'est-ce qu'il y a ?
Bah oui.
Ah, ah
ouais, il a lâché.
Oh, décidément.
Bah, on fera au ruban.
Il y en a d'autres, mais...
On le fera au ruban.
Bon, est-ce que ça va ? Oui.
Oh, ben.
Bon.
Oui, enfin, en tenant.
Non, je vois que Jean-Marie n'est pas content.
Pour une débutante, ça va.
Il est pas. Je vois qu'il n'est pas satisfait. Je vois ça.
Voilà, on va mettre une plaquette.
les plaquettes, elles sont faites en quoi?
Alors ça, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est deux couches de, d'alu et une couche de plastique de PVC entre les deux.
Une mousse de polyuréthane.
Hein?
Ça, c'est une mousse de polyuréthane.
Il y a des endroits sur lesquels vous n'avez pas le droit de baliser?
Ben, surtout ce qui est privé. Surtout les et puis en même temps ce qui appartient par exemple à EDF, toutes ces choses là enfin il y a des conventions quand même, il y a des accords,
il y a
des accords, mais on va essayer de baliser d'une façon intelligente quoi. Par exemple le dernier balisage qu'on a fait qui traverse la ville de Sedan, là on a du mobilier urbain qui est récent, qui est neuf, donc on a évité de l'utiliser pour baliser quoi.
Alors il faudrait peut-être signaler là qu'on prend le champ. Ah ben non, ça c'est un champ, c'est évident qu'on va pas là.
Il y a une convention de balisage, c'est-à-dire je sais pas, tous les 10 mètres, tous les 15 mètres.
Quand il y a pas de, s'il n'y a pas d'intersection, c'est tous les 300 mètres maximum.
Ah 300, oui, ben, j'aurais dit 100.
À condition d'avoir le support.
Ouais. Oui, c'est ça.
Alors, à l'origine, c'était quand même un balisage succinct, c'était même uniquement du blanc à l'origine. Ils se sont aperçus qu'en hiver, quand il y a la neige, ça posait problème, donc ils ont rajouté le rouge. Ça vaut. Alors là, on est sur un sentier de petite randonnée, donc c'est une. Tiens, le poteau. Il va falloir le dégager un petit peu. Là.
Oh oui.
Donc sur une petite randonnée, c'est une barre jaune, couleur jaune. Pour tourner à gauche ou à droite, il y a une équerre en plus, à gauche ou à droite. Et les croix, c'est pour indiquer les mauvaises directions.
Alors la plaquette du coup. Ouais, elle est là, Jean-Marie. Là,
je vais essayer.
Attends, on va regarder.
Ici, c'est là.
Ouais. Oui, alors il faut regarder la dessine, parce que l'épine, ça va. Jean-Marie, tu vas venir carrément couper l'épine ou non? Parce qu'elle va encore repousser et ça va
se faire. On a le temps cette année.
Ah bon?
La prochaine, oui.
Ah bon? Ok.
Non, on va peut-être dégager un petit peu, dégager un peu les broches aussi. Ouais. Il y a l'arbre là-bas, il est peut-être un peu loin quand on est dans la lumière, dans le sous-bois.
Un peu plus loin pour la quatrième marque. Le chemin entre en forêt.
Oui.
Ah oui, mais oui, mais
la vue,
j'ai pas pris les vis autoforeuses avec les vis autoforeuses. Et bon, éventuellement, on aurait pu visser directement dans la tôle.
On va garder celui-là.
Ouais. Oh non, j'ai toutes les valises déjà.
J'ai l'impression que c'est une
Il y en a trop.
Signalisation sur un poteau.
Ok. Et là, il n'y a pas besoin de mettre une bande jaune là, Fabrice? Non, ça ne sert pas.
On va tout droit.
Ils ne vont pas avoir l'idée de tourner.
Après, si tu prends ce chemin-là, tu vas revenir
là-bas.
Bah,
donc,
à un certain moment, quand tu auras fait 10 tours, tu vas dire bon, j'ai peut-être changé là. Peut-être prendre une autre poteau.
Est-ce que ça arrive que des parcours soient mal balisés dans le sens où les baliseurs connaissaient trop bien le parcours?
C'est un peu comme tout, quoi. Tout le monde fait des erreurs. Donc oui, il y a des fois on a des parcours qui sont mal balisés. On a parfois aussi des parcours qui se chevauchent. Donc des problèmes, des manques de numérotation, des choses comme ça. Quoi. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des balisages parfaits. On connaît énormément de randonneurs, on nous alerte, qu'on nous dit là, tel parcours n'est pas balisé, il manque une balise. Donc on a toujours les informations lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas.
Alors, est-ce que ça arrive que parfois vous mettez votre, le balisage sur, sur un arbre et quand vous revenez 3 ans plus tard, il n'y a plus d'arbre?
Oui.
Ça, c'est un seul tour. Oui.
Pas trop.
Ou un poteau. Ça peut arriver. Ah, il est là, on dirait. Attends.
Je peux pas le mettre un
petit. Non, non, mais c'est pas
plus haut, non? Un peu plus haut, non?
C'est juste pour le percer.
Ouais.
Non, mais on est déjà plus haut que le chemin, là. Donc,
oui, c'est vrai, il faut pas. Ouais.
Ça doit être à la hauteur des yeux, normalement.
Et du coup, dans le cas où ce serait une tempête, ce serait pas possible, mais dans le cas où ce serait des bûcherons qui feraient tomber l'arbre pour X raison, les employeurs des bûcherons peuvent pas vous prévenir, attention, on a abattu un gros arbre.
Il y en a peut-être qui le font, mais c'est vraiment les gens
non,
qui
ils le font pas, ils ne préviennent pas. Déjà qu'ils ont du mal, lorsqu'ils interviennent sur les chemins, à les remettre en forme. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui est compliqué actuellement dans les Ardennes, c'est qu'il y a beaucoup de travaux en forêt. Donc les chemins sont saccagés par les engins. Et la remise en état est vraiment très très rare, alors que normalement ils ont une obligation. Réaplatir, reboucher les ornières, il y a tout un travail qui est à faire, quoi. Et malheureusement qu'ils ne font pas assez souvent. Et c'est un peu dommage parce que la plupart des sentiers, c'est quand même, ça fait partie du patrimoine. C'est la mémoire de la terre, donc il faut quand même essayer de la préserver.
Je vais essayer à un moment donné de mettre des,
ah oui,
des pointes avec un ressort derrière.
C'est ça, avec des ressorts, ouais.
Ça marchait pas?
Bah, t'es obligé d'emmener un marteau, tout un tas des ressorts.
Il y a un truc qui
chaque fois tu les poules dans l'herbe. Hein? Là, vous avez vu là qu'on avait écarté pour la croissance de l'arbre.
C'est ça.
Donc nous, éventuellement, si on voit que l'arbre se rapproche de la plaquette, il suffit de dévisser un peu tous les ans.
Et du coup, ça, c'est une obligation ou c'est vous qui le faites
C'est les recommandations de l'ONF et des forestiers en général. Parce que si on enfonce trop, après, c'est pour les scieurs, pour les bûcherons. Et les scieurs, c'est de l'acier. À un moment donné, on mettait des pointes alu. Mais ces pointes alu, déjà, c'est pas forcément facile à enfoncer, c'est un peu mou. Il faut mettre un ressort derrière, c'est un peu compliqué à mettre en place. Là, avec le système de vis, la plaquette se tient écartée toute seule.
Ah oui, les mini-grenouilles.
Oui, vous avez vu les...
Oui. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois, on en fait sauver.
Alors, Marie-Lou Nivelet, je suis donc baliseur depuis 2 ans et je fais aussi partie du club alpin. Donc, je fais des randonnées dans ce cadre-là. Et voilà, j'apprécie beaucoup de marcher dans la nature et de découvrir des paysages différents. De guider donc avec les moyens qu'on a vus et en même temps on fait aussi une formation dans le cadre du CDRP pour accompagner les groupes, voilà.
Le CDRP,
comité départemental de randonnée pédestre, donc mes 3 collègues ils en font partie aussi, donc Jean-Marie, Fabrice et Marie-André.
Pourquoi depuis deux ans?
Parce que je suis en retraite depuis 2 ans, voilà. Avant, je n'avais pas le temps.
Qu'est-ce que vous aimez dans la randonnée? Pourquoi la randonnée est un...
Alors déjà, parce que c'est à ma portée. Parce que, moi, je n'aime pas spécialement les sports à sensation. Là, la randonnée, c'est un effort continu, mais qui est vraiment... dans mes cordes. Et là, dernièrement, je viens de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple, une partie. Voilà. Et donc, c'est vraiment à la portée de beaucoup de gens, je dirais, et particulièrement de retraités. On en voit beaucoup sur les chemins.
Votre randonnée préférée dans le coin?
Ah, j'aime beaucoup la vallée de la Semois. J'aime partir de la passerelle de Nau et monter... aller par exemple au Roc la Tour. Il y a aussi la randonnée des 7 roches qui part de la roche à 7 heures
et qui va donc vers l'Ermitage, etc. Et ensuite les Quatre Fils-Aymon et retour sur Monthermé, au départ de Monthermé. Donc c'est la boucle des Sept Roches. Et ça, c'est très beau. C'est vraiment, on a une vue magnifique sur Monthermé, sur la vallée, sur Bonny. Voilà, c'est très, très joli. Et on l'a fait découvrir d'ailleurs à un groupe qui venait des Pyrénées et qui ne connaissait pas les Ardennes, qui ont été vraiment fascinés. Voilà. Alors là, c'est tourne à droite. On fait le tour de la. Bah, c'est quoi là? Tourne à gauche.
Oui, tourne à gauche.
Tourne à gauche, pardon.
Ouais, oui. Faudra rentrer un jour.
Sinon, on va, on va rentrer.
Sinon, on refait encore un tour.
On va faire un tour pour rien.
Pour une ole l'avait percé, ce bon.
Donc là, c'est une petite balade dans un coin où il est facile de se repérer, mais est-ce que sur les plus grandes randonnées, vous y allez avec le topo guide pour suivre
Ah oui, on vérifie quand même. Non, on les connaît pas tous par cœur. Quoi. On prend le topo guide, on prend aussi notre téléphone avec la trace GPX. Hein. Oui, on vérifie quand même ce qu'on fait. Hein. Sachant qu'on a au plus, souvent on parle de parcours et on a parfois nos propres variantes à nous. On dit moi je fais tel parcours, mais chacun a sa petite variante, sa petite improvisation. Donc voilà, il faut qu'on essaie toujours d'avoir un petit peu le même langage ensemble. Quoi.
Et alors celui-là? C'est celui-là qui avait été banni.
Tu n'as pas pris les bonnes vis.
Tu n'as pas pris les grandes.
Ouais. C'est celui-là qui avait été banni dans le mauvais sens.
Non, dans le bon sens, mais c'est le topo guide qu'on a refait dans l'autre sens.
Ah, voilà. Ah, ouais. D'accord.
On ne bannisse jamais dans le mauvais sens. Et on ne se trompe jamais.
Bon, d'accord.
On obéit à une logique qui est propre à nous.
Vous parliez de randonnée guidée tout à l'heure, c'est quoi une bonne randonnée guidée?
C'est déjà le guide qui connaît parfaitement son parcours, qui sait emmener les personnes vers des curiosités, qui est capable d'apporter certaines connaissances sur le parcours. Par exemple, ici, sur le site de la chapelle Saint-Roger, qu'il soit capable de raconter l'histoire de la chapelle Saint-Roger, quoi, tout simplement. Il faut que le guide aussi s'adapte à son public, hein, parce qu'en marche, vous allez avoir des marcheurs, des personnes qui vont marcher rapidement, d'autres qui vont marcher plus lentement. Donc il faut arriver à concilier le tout, trouver le bon rythme, etc.
Voilà. Si ce sont des enfants ou des adultes, on va pas avoir le même discours, enfin les mêmes explications. Mais après, nous, on est plus amené à guider des adultes en majorité quand même, nous.
Après, c'est aussi notre mission, nous, par rapport au territoire, c'est justement de faire découvrir le territoire, ses particularités, les emmener justement hors des circuits balisés aussi. Et là, j'ai remarqué, moi, ça m'arrive assez souvent avec des groupes, le fait de traverser la forêt hors sentier, c'est quelque chose qui leur plaît énormément. Il y a un petit côté aventure, des choses qui ne feraient pas seul, quoi. Donc voilà, il faut aussi faire preuve un peu d'originalité.
Il ne faut pas se perdre. Ah non, ça, ça a un sens de l'orientation.
Mais on ne se perd jamais. On ne se perd jamais, on prolonge la promenade.
Mais c'est vrai que maintenant, on a pratiquement tous l'application et rares sont les guides qui utilisent encore les cartes et la boussole, je dirais. Mais ça arrive encore hein, ah ouais, au club vrai. Alpin. Mais c'est de plus en plus rare.
La boucle traverse la route. Une branche d'arbre gêne la visibilité de la balise positionnée de l'autre côté.
Donnez un petit coup de cisaille à la branche là.
Celle-là, oui.
Si on arrive à l'attraper.
Qui c'est qui a les outils? Oh, mais, hey, Fabrice, amène les outils.
Sécateur pour...
Ouais.
On va mettre un tourne à droite là, sur celui-là.
Tourne à droite, c'est pas bien.
Oh, bah celui-là, il est vachement haut.
Bah ouais, c'est
et
ça.
Celle-là, elle ne gêne pas, celle-là.
Non, celle-là ne gêne pas, c'est celle-là, un peu. Mais celle-là, faut l'attraper, mais...
Ouais, tu gaffes, hein. C'est la branche que Jean-Marie va attraper là. Il faudrait redonner un petit coup de sécateur.
Voilà. Hop, opération, petit rondement.
Ah bah ça y est, c'est coupé. Voilà.
Ah, je peux même pas m'accrocher la liane. Il faut faire pardon. Ah, mais attends, la droite, hein.
Ouais, je mets sur la droite, hein.
D'ailleurs. Ah, oui. D'ailleurs, tu vois, je crois bien qu'on avait mis des balises dans l'autre sens. Là.
C'est les arbres.
Ces arbres.
Alors là, on va. Tiens, déjà fait. Il faut vraiment être très sérieux parce que c'est aussi pour éviter des chemins qui peuvent devenir dangereux. Je pense par exemple sur les sentiers en Bretagne le long du littoral, dans les falaises, voilà, il faut vraiment prendre de bons chemins, sinon on va sur des chemins qui peuvent être un peu plus périlleux, quoi. Donc il faut quand même faire ça sérieusement.
C'est quoi qui détermine le choix entre plaquettes et peinture?
Et quelquefois, le support ne va pas bien pour peindre. De toute façon, c'est trop irrégulier, ou la face du piquet n'est pas bien orientée. Là, avec la plaquette, on peut améliorer la visibilité.
Alors regarde, il y a une espèce de une petite plaquette là-bas.
Ouais, c'est un poste de chasse.
Ah d'accord.
Hein?
Tu peux pas le mettre avant?
Non, non, toujours après le...
L'intersection.
Après l'intersection. Là, on est les limites, mais
ah,
les
ou
autres
là-bas.
Arbres sont trop en retrait.
Regarde Jean-Marie, le...
Hein?
Quand tu arrives là, il est pas... Ouais, il est en retrait, mais il est quand même bien visible. Quoi. Ah, quoi, par exemple, c'est pas...
Bon, c'est sûr que... Mais après, on peut se demander si c'est pas aussi un machin des forestiers, une
bah,
peinture si des forestiers.
Bah, si tu mets une plaquette, ce sera pas...
On met une plaquette, bon, oui.
Ou alors, après, tu mets une croix équine, hein.
Non, c'est parce que je voulais faire la peinture.
Plutôt qu'un sécateur...
Oh, attends, il va falloir s'écarter là. Hein.
Ouais, je crois qu'on n'a pas le choix. Prends tes distances, toi.
Ça, là, il faudrait le retirer.
La branche, tu vois, qui fait ça pour dégager vraiment la vue, quoi. Mais bon, après, ça repousse. Hein.
Ouais, bah, c'est ça.
Je n'ai pas du tout de sens de l'orientation. Donc, en tout cas, c'est pas inné, quoi. Donc, en fait, le balisage des chemins,
Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que au moins ça permet aux gens qui sont comme moi de pouvoir ne pas se perdre, hein, au moins sur un itinéraire donné, quoi. Voilà.
Et justement, est-ce que le fait de ne pas avoir le sens de l'orientation, c'est une force pour faire du balisage ?
Alors, c'est difficile à dire parce que oui, en quelque sorte, ça peut effectivement être une force parce que ben, du coup, peut-être que je remarque des choses, je me dis ben, là, peut-être que ce serait bien de le mettre ou enfin voilà, pour éviter qu'on ne se trompe, peut-être, oui, ça peut être une aide.
Vos randonnées préférées dans le coin ?
Ben, c'est un petit peu comme ma collègue, en fait, c'est tout le nord des Ardennes avec surtout la vallée de la Smoye. Il y a vraiment de beaux sites sur le nord des Ardennes. Après, franchement, tout ce qui se situe dans le nord des Ardennes, c'est vraiment, voilà, c'est un joyau, les Ardennes, en fait, pour faire de la randonnée. Hélas, pas encore très développé ou connu. Alors, on fait en sorte, effectivement, que ce soit, hein, avec le topo-guide là, qui vient de paraître. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être connu.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la randonnée ?
Le côté nature, évidemment. J'aime aussi le côté un peu sportif, moi. Parce qu'autrefois, je faisais un petit peu de marche nordique. Et j'aimais bien ce côté aussi, un petit peu plus, voilà, un petit peu de cardio, un petit peu de choses comme ça. Bon, on le rencontre moins dans ce domaine-là, mais tout ce qui tourne autour de la nature, en fait. Voilà, c'est ça que j'aime, moi.
Vous êtes dans le comité départemental depuis combien de temps ?
C'est ma deuxième année. J'ai fait la formation en septembre. Parce qu'avant c'est difficile lorsqu'on travaille, tout ça, il faut quand même être assez disponible. Donc c'est un peu compliqué.
Vous parlez de formation, il y a quoi dans cette formation ?
Alors en fait, c'est une formation qui nous permet de savoir lire une carte, de se servir d'une boussole, de calculer un azimut, des choses comme ça, voilà. Principalement ça. Et puis en fait, on fait partie d'une équipe. Et pour quand on est nouvellement formé, on n'est jamais lancé sur le terrain seul. On est toujours avec des personnes qui savent faire, et donc on apprend progressivement comme ça. Pour l'instant, on a rafraîchi simplement, parce qu'après, c'est un autre domaine. Quand il faut créer son propre circuit, c'est un autre domaine.
Le travail est terminé, nous apercevons les maisons et Jean-Marie m'explique les nécessités de composer avec l'ONF et les chasseurs.
L'ONF n'est pas propriétaire, mais l'ONF est chargé de la gestion. Donc pour tout ce qui est balisage itinéraire en forêt domaniale, il faut demander des autorisations à l'ONF. Sauf que quand on demande des autorisations, ils ne répondent pas forcément.
Et composer avec les chasseurs ?
Ah bah, éviter les histoires, quoi. Éviter les affrontements. On essaye de ne pas avoir de friction, c'est tout. Hein. Il faut dire que les chasseurs, ça leur coûte cher, c'est un loisir qui coûte cher, et ça leur plaît pas que nous, on se promène gratuitement dans les bois. On utilise les bois gratuitement alors qu'eux, ils payent. Puis ils payent cher. Donc on peut les comprendre. Hein. Ils ont plus facile aussi de s'attaquer à des marcheurs qu'à des gens avec des motos de cross ou des quads. Parce que là, pour les attraper, c'est plus difficile. Hein.
Le sentier est désormais balisé.